Bonsoir à toutes et à tous. Merci de passer ce début de week-end avec nous, avec Jean Bobéro et Jean-Marc Chiappa. Bonsoir à tous les deux.
Merci.
Donc Jean Bobéro va surtout parler de vous et de votre livre, le tome 2 sur 3 de ce grand œuvre sur la loi de 1905. La loi de 1905 n'aura pas lieu. Histoire politique des séparations des églises et de l'État. Alors on s'en est dit un mot tous les deux au téléphone cette semaine. C'est vrai que c'est un livre qui est extrêmement précis, une trilogie qui est extrêmement précise, pour l'instant on a deux tomes sur les trois, mais extrêmement précise sur l'histoire de l'élaboration de cette loi, qui est un ouvrage érudit, un ouvrage pour spécialistes, mais que vous avez construit, et j'avoue qu'en tant que lecteur non spécialiste, c'est très appréciable, comme un livre aussi accessible, très bien séquencé, très bien organisé, pour avoir aussi une vision d'ensemble sur les cadres qui permettent de bien comprendre comment cette loi de 1905 est apparue, si l'on peut dire, d'un raccourci malhabile. Donc on va revenir un petit peu sur les raisons de ce livre et la façon dont vous l'avez pensé. Donc moi, je jouerai le rôle de ce regard un peu général et peu informé, enfin non spécialiste, et puis vous, Jean-Marc Chiappa, qui est historien, président de l'Institut de recherche et d'études de la libre pensée et membre du conseil d'administration de la Vigie de la laïcité, vous apporterez sans doute un regard plus expert sur le travail de Jean Bobéro. Et j'ai oublié de préciser, Jean, que vous étiez historien, professeur honoraire, ancien titulaire de la chaire Histoire et sociologie de la laïcité à l'École pratique des hautes études.
De Ram Amri, voilà, qui a collaboré également au livre. Voilà.
Notamment en composant le chapitre sur l'Algérie et l'application de la loi de 1905 en Algérie. Alors, Jean Bobéro, ce deuxième tome, déjà, il commence, on va dire, avec la chute du ministère Combes. On est donc au début de l'année 1905 et il embrasse, on va dire, pour faire vite, l'année 1905, la fin de l'élaboration et surtout du vote de la loi, puisque le vote des députés intervient le 3 juillet 1905 et celui des sénateurs le 6 décembre. Donc voilà, c'est le pas de temps qui est spécifiquement parcouru dans ce deuxième ouvrage. Moi, je voudrais qu'on reprenne un tout petit peu de champ, parce qu'il y a une réflexion que vous faites à plusieurs reprises dans ce livre, et vous le faisiez aussi dans le premier tome d'ailleurs, c'est d'expliquer qu'il y a eu beaucoup d'incompréhensions, de mythes presque, sur cette loi de 1905. Et vous dites que vous-même, vous avez longtemps été victime de ces mythes et de cette vision un petit peu idéalisée. Donc j'aimerais bien que vous nous racontiez à quel moment et comment votre regard s'est dessillé.
Oui, alors, si vous voulez, il y a un paradoxe dans la manière de raconter la loi de 1905. C'est-à-dire que pendant longtemps, on a raconté la loi de 1905 comme étant l'œuvre du petit père Combes, hein, d'Émile Combes, le président du Conseil le plus anticlérical de la Troisième République, qui suite, d'ailleurs c'était pas sans raison, il y avait eu l'affaire Dreyfus, et du coup l'affaire Dreyfus a créé le gouvernement de défense républicaine de Waldeck-Rousseau, et puis les élections de 1902, ça a été encore plus à gauche, donc il y a eu le bloc des gauches avec Émile Combes. Et il y a une loi emblématique, il y a plusieurs lois, mais il y a une loi emblématique du ministère d'Émile Combes, c'est la loi du 7 juillet 1904, où les congrégations enseignantes sont interdites avec un délai de 10 ans pour pouvoir mettre les enfants ailleurs. Bon. Si vous voulez, la loi de 1905 était racontée comme étant le couronnement de cette politique anticléricale. Et même si Émile Combes avait quitté le pouvoir au moment où la loi a été votée, comme il avait déposé un projet de loi, comme il avait fait un discours à Auxerre vantant la séparation, etc., il y avait un continuum, disons, et c'était le couronnement. Bon. Et puis, plutôt chez les historiens, mais disons pour un public cultivé, on peut dire au centenaire de la loi en 2005, on a au contraire dit que cette loi était très libérale, que c'était une loi de liberté, que c'était... Mais on n'expliquait pas pourquoi et comment on était passé d'un anticléricalisme d'État très, très virulent à une loi très libérale, une loi de liberté, etc. Et le point de départ, disons, de ma réflexion, c'est comment finalement résoudre cette énigme et donc faire un peu une enquête policière. Et je me réclame du lieutenant Colombo, c'est-à-dire qu'on connaît la fin de l'histoire, mais ça n'empêche pas qu'il y a du suspense, puisqu'il faut arriver à expliquer comment on est passé donc, de cet anticléricalisme d'État à une loi conciliatrice, moi que j'appelle une victoire conciliatrice de la laïcité. Mais en 2005, on a parlé de compromis, etc. Je trouve que le mot compromis n'est pas un bon mot, mais on peut parler de victoire conciliatrice de la laïcité. Mais en tout cas, c'est une conciliation qui quand même tranche avec la politique de Combes, qui employait un vocabulaire guerrier, qui se voulait le chef de guerre, etc. Alors que le vocabulaire de Briand est un vocabulaire beaucoup plus pacifique. Rien qu'à ce niveau-là, il y a une rupture dans le langage, mais aussi dans la politique.
Alors qu'est-ce qui distingue la conciliation du compromis ?
Eh bien, c'est que je parle de victoire conciliatrice, et les deux termes sont importants. C'est-à-dire que le compromis, on pourrait dire, c'est moitié-moitié. Non, c'est pas moitié-moitié, parce que la République a quand même réalisé la séparation. Mais alors, c'est là où je fais un distinguo qui n'est pas très sophistiqué, mais qui, je pense, aide à comprendre les choses, entre la séparation avec un grand S, le principe de séparation, que la République avait inscrite dans son programme depuis la fin du Second Empire, donc depuis plus de 35 ans, mais qui était l'Arlésienne, la République, qu'elle ne réalisait jamais. Et puis, la séparation de 1905, alors qui est une séparation au niveau de son contenu parmi d'autres possibles. Elle réalise la séparation avec un grand S, elle réalise le principe de séparation, et donc, puisque le principe de séparation est réalisé, c'est une victoire, mais c'est une séparation conciliatrice, alors qu'il y aurait pu avoir d'autres séparations beaucoup plus dures, beaucoup plus combatives, beaucoup plus rigides. Donc voilà, c'est cette dialectique entre la victoire et la conciliation. C'est-à-dire une victoire qui permet, en 3 ans, et ce sera le tome 3 évidemment, l'apaisement. Alors qu'en 1904, tout le monde parlait de guerre civile. Bon, alors c'était peut-être abusif de parler de guerre civile, mais malgré tout, on était quand même un peu au bord de la guerre civile.
Alors justement, puisque vous parlez de la période d'apaisement qui sera abordée dans le troisième tome, redites-nous un petit peu comment vous avez découpé le projet en trois livres.
Ben, c'est un petit peu ce que vous avez dit vous-même, c'est-à-dire que le premier tome, c'est la préparation de la loi, sous Émile Combes, parce que le paradoxe aussi, c'est que pendant que au niveau de la Chambre des députés, on s'empoigne très vigoureusement entre combistes et anticombistes, pendant ce même temps, la commission parlementaire sur la séparation, présidée par Ferdinand Buisson, qu'il ne faut pas oublier parce qu'il a joué un rôle au départ, il était beaucoup plus connu et avait beaucoup plus d'autorité que Briand, qui était député depuis 1902. Donc, comme Buisson comme président et Briand comme rapporteur, ces deux-là arrivent à faire travailler ensemble une commission où il y a une majorité d'une voix au niveau des... Il y a 33 membres, il y a 17 séparatistes, 16 personnes opposées à la séparation, et ils arrivent à faire travailler ensemble ces 33 membres. Et donc, déjà, en plein combisme, ils rompent avec la logique combisme, puisque la logique combisme, c'était l'affrontement. Et là, ils arrivent à faire... Alors, je ne dis pas que ça se passe toujours merveilleusement bien, mais quand même, quand on voit un opposant à la loi qui dit à Briand « Nous vous entourons de notre affectueuse sollicitude », bon, c'est vraiment des paroles qui tranchent complètement avec les débats parlementaires. Bon, donc, il y a déjà, pendant cette période-là, cette forêt, disons, la forêt cache l'arbre, on pourrait dire. La forêt, c'est l'affrontement, et l'arbre, c'est la commission parlementaire qui déjà traite...
Qui
fait réconciliatrice. Bon. Puis le tome 2, alors c'est la loi, l'élaboration de la loi elle-même, comme vous l'avez dit, avec les débats. Enfin, ça part de la chute de Combes jusqu'à la promulgation de la loi le 9 décembre, et ça paraît au journal officiel le 11 décembre. Bon, donc c'est l'année 1905, avec tous les zigzags, toutes les... Et bon, ce que j'ai appelé la guerre des gauches, justement, parce que la conciliation ne s'est pas faite sans conflit interne aux républicains. Il n'y a pas de miracle tout à coup qui fait changer les choses. Donc, au conflit des deux Frances, s'ajoute un conflit entre républicains. Et puis, le troisième tome, ça va être l'application de la loi, avec le suspense qui continue, puisque le pape Pie X ordonne aux catholiques de ne pas se conformer à la loi. Donc, comment appliquer la loi malgré le refus de Pie X? Mais ça, on le verra au troisième tome.
Alors, Jean-Marc Chiappa, je vais vous demander voilà, votre sentiment de lecture. Est-ce que, on parlait tout à l'heure de la façon dont le regard de Jean Bobéro avait pu être dessillé par rapport à ce mythe de la loi de 1905, est-ce que vous, la lecture du livre, vous a dessillé sur certains points?
Bonsoir. Pour beaucoup de choses, oui, on en a parlé déjà, mais avant même d'aller sur ce phénomène-là, ou ces faits-là, je pense que vous avez eu raison d'insister là-dessus. C'est un livre qu'on a un immense plaisir à lire. J'avais dit que j'allais te le dire, mais je voulais livrer la surprise en quelque sorte. On a des citations de Briand, d'Allard, de Lemire, et paf ! Un vers de Starmania, paf ! Une strophe de Woolsey, paf ! Une référence à Brassens, etc. Et c'est à la fois extrêmement surprenant et extrêmement agréable, comment dirais-je, parce qu'on n'est pas obligé de s'ennuyer quand on lit un livre d'histoire, on n'est pas obligé de s'ennuyer quand on l'écrit, mais là, c'est vraiment rafraîchissant, parce que ça nous met dans un univers un petit peu quotidien, d'une part. Alors, je ne dirais pas que tu as pillé le catalogue de la SACEM, ce serait excessif, mais franchement, cette légèreté, cette bonne humeur, on va dire, c'est quelque chose d'extrêmement agréable, ce qui fait qu'y compris le séquençage de l'ouvrage, les pages consacrées à l'évolution des chapitres les uns après les autres, ou tel chapitre, ou tel comment dirais-je, sous-partie, font que c'est quelque chose d'extrêmement agréable à lire. Sur la question que vous venez de me poser, sur est-ce que cet ouvrage m'a dessillé, oui, au moins sur... on aura probablement l'occasion d'en parler, mais il y a une chose sur laquelle nous... Beaucoup de choses, d'ailleurs. J'étais au bout d'un moment, j'ai dû arrêter, parce que chaque fois que je mettais un post-it, j'écrivais « oui, d'accord, 100%, bon, si je suis venu pour dire uniquement du bien de cet ouvrage... Alors, j'ai cherché des points de désaccord, j'en ai trouvé un ou deux, mais fondamentalement, le refus de la notion de compromis me semble central. Le compromis, c'est quelqu'un a donné, quelqu'un d'autre a donné. Il y a eu un échange. Or, d'une part, ce n'est pas vrai parce que cela concerne la victoire essentielle de la République. Et deuxièmement, ça va à l'encontre de l'idée de la notion de séparation. La séparation, c'est on se sépare et le compromis, c'est on donne. Et puis un compromis à l'intérieur d'un Parlement. À l'intérieur d'un Parlement, il n'y a pas de compromis. Il y a une loi qui est élaborée avec une majorité, une minorité, des arguments. C'est une discussion parlementaire. La notion de compromis me semble aller à l'encontre de toute la discussion parlementaire particulièrement riche. Et c'est pour ça que je suis totalement d'accord avec le fait de mettre de côté cette notion de compromis. Ce qui m'a semblé extrême... J'étais étonné, par exemple... Nous sommes encore pour quelques semaines dans le 150e anniversaire de la Commune de Paris. La Commune de Paris avait proclamé la séparation des Églises et de l'État, était la première à avoir mentionné l'existence, la notion de liberté de conscience. Et je pensais, j'ai longtemps pensé, que dans les débats, y compris les débats pas parlementaires, parce que parlementaires, effectivement, je n'avais pas trouvé ça, mais dans le contexte, la séparation de la... effectué par la commune allait être mentionné. Or, ça ne se trouve pas. Et pourtant, vaillant, et pourtant Alman, et pourtant Buisson lui-même, qui avait participé à la commune du côté des Batignolles. Et ça, c'est effectivement comme si les séparatistes de 1905 ne voulaient pas, d'une part, raviver ce souvenir, et d'autre part, raviver l'échec. Parce que quand on essaye de faire une nouvelle loi et de dire la loi précédente ou le décret précédent, ça n'a pas marché, c'est pas terrible. Deuxième élément, bon, je ne vais pas monopoliser la parole, il ne faut jamais me donner un micro. J'étais assez sensible, très sensible, sur la... Comment peut-on mettre... Le recadrage, le terme est mauvais, mais après tout... Des principaux protagonistes. En 2005, on a eu un Jaurès magnifié, surdimensionné. On en avait parlé à plusieurs reprises au film, La Séparation, qui est un film remarquable par ailleurs, mais faisant de Jaurès le personnage central et faisant de Briand une sorte de personnage rusé, une sorte de maquignon retors, un Laval qui ne serait pas allé jusqu'à Vichy. Bon, je ne sais plus quel est l'acteur qui jouait le personnage dans ce film, mais faire les choses comme cela, ça sous-estime la place centrale de Briand, qui est effectivement, et je crois que c'est un des acquis de cet ouvrage, il y en a d'autres, beaucoup d'autres. Je terminerai sur une chose qui, à mon avis, est centrale. Ça fait beaucoup de centres, mais après tout, nous sommes en histoire, nous ne sommes pas en géométrie. Comment dirais-je ? Il peut y avoir plusieurs séparations, mais en 1905, au bout du bout, la séparation a pris la forme de la loi de 1905. Ce chemin n'était pas le chemin imposé, n'était pas le chemin obligé. Voilà en quoi, brièvement, je peux dire.
Oui, c'est ça. C'est un élément important, le fait que ce que vous disiez tout à l'heure sur cette séparation avec un grand S, cette séparation avec un petit S, il y avait un champ des possibles sur la séparation, ouais, qui s'est soldé par un scénario qui est plus ou moins celui de Briand contre celui de Combes.
Oui, et même, disons, contre celui de beaucoup d'autres. Hein, parce que ce qui est formidable, c'est qu'à la fois, bon, la séparation et l'enchaînement de plein d'interactions, et évidemment, c'est une œuvre collective, bon, mais en même temps, Briand, à la suite d'un problème de mœurs, à un moment, il s'est dit qu'il allait partir aux États-Unis. Et moi, je suis persuadé que s'il était parti aux États-Unis, il n'y aurait jamais eu la loi de 1905. Bon. Donc ça amène à réfléchir sur le fait que l'histoire est la rencontre de causes structurelles. Et j'essaye de montrer justement comment, au début de 1905, il y a quand même ce que j'appelle un alignement des planètes qui favorise la potentialité d'une séparation libérale, mais ça favorise une virtualité, disons. Bon. Et pour concrétiser cette virtualité, il faut le génie, l'intelligence stratégique, disons, et la philosophie de Briand. C'est-à-dire que Briand, à la fois, est pragmatique sur plein de points, mais il a quand même une idée fixe, qui est d'arriver le plus possible à une égale liberté de conscience. Il a un principe directeur, il n'en démord pas, il est tenace là-dessus, et puis pour le reste, ben, il fait des zigzags, suivant le rapport de force, suivant etc. etc. Il est très pragmatique. Bon. Mais, et c'est peut-être ça pour moi le génie d'un vrai homme politique, c'est d'avoir quelques principes fondamentaux, et puis d'avoir du pragmatisme pour le reste. Et là, il y arrive. Alors, il n'y arrivera pas tout le temps dans sa vie, mais à ce moment-là, il y arrive, et il y arrive justement malgré des ambiguïtés. Et justement, alors si vous me demandez ce que j'ai appris durant ces 5 ans que je ne savais pas, ça a été un peu la désacralisation de Jaurès. C'est-à-dire que moi aussi, je pensais que Jaurès était... à côté de Briand, le grand homme de la séparation, et en fait, il est beaucoup plus ambivalent, alors à la fois pour des raisons structurelles, c'est-à-dire qu'il est en train de se réconcilier avec, de faire l'unité socialiste, et dans l'unité socialiste, il y a Vaillant, il y a Allard, il y a des gens qui sont pour une séparation antireligieuse, donc c'est compliqué pour lui. Bon. Mais il y a aussi peut-être ce que j'appelle, bon, c'est lapsus quasi-freudien, où il soutient Briand, mais en fait d'une manière contre-productive. Et là, on peut se demander s'il n'y a pas un peu une jalousie inconsciente vis-à-vis de quelqu'un qui est en train d'éclore et de prendre de plus en plus d'importance. Bon, c'est une hypothèse, mais en tout cas, il y a quand même, par exemple, à un moment, il défie Clémenceau. Or, de faire un contre-projet. Or, si Clémenceau, qui est sénateur et qui est un sénateur très influent, fait son contre-projet au Sénat, la séparation est foutue. La séparation est en l'air. Bon. Et défier Clémenceau, quand on connaît Clémenceau, c'est quand même jouer la séparation sur un coup de poker. Enfin, on se demande pourquoi il a fait ça. Rationnellement, c'est pas tenable. Bon.
Alors dans l'alignement des planètes, vous allez jusqu'à affirmer qu'il fallait que Combes tombe pour que la loi aboutisse. Est-ce que vous pourriez revenir sur cette idée ?
Oui, alors, pour plusieurs raisons. D'abord parce que Combes lui-même, comme j'ai dit, il est chef de guerre. Il mène les troupes républicaines au combat. Bon. Et donc, il n'est pas du tout dans ce qui sera la philosophie de la loi de 1905. En fait, ce que Combes cherche, c'est soit ce qu'on appelle un concordat renforcé, hein, c'est-à-dire qu'un concordat où l'État pourrait encore plus surveiller et contrôler les églises. Mais il ne faut pas le diaboliser, c'est parce qu'il a une grande idée qui est de réconcilier le catholicisme et la République. Mais pour réconcilier le catholicisme et la République, eh bien, il faut purifier le catholicisme de ce qu'on appelle le dogme. Et à l'époque, on parle du dogme comme aujourd'hui, on parlerait de l'intégrisme ou du communautarisme. Hein. D'ailleurs, les libres penseurs parlent beaucoup plus du dogme que les catholiques eux-mêmes. Donc, il faut purifier l'Église catholique. Bon. Et donc, si on fait la séparation, c'est beaucoup plus dans l'optique de Combes, séparer l'Église catholique en France de Rome que séparer l'Église catholique de l'État. Il faut que l'État continue de surveiller l'Église catholique pour pouvoir la républicaniser. Bon. Donc, il n'est pas du tout dans... D'ailleurs, le projet de Combes ne parle pas de liberté de conscience. Donc, il n'est pas du tout dans la philosophie de Briand d'essayer autant que possible de trouver une égale liberté de conscience. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, Jaurès est combiste. Il ne faut pas oublier que Jaurès a soutenu Combes jusqu'au dernier moment. Et que justement, dans le premier conflit entre Briand et Combes, Jaurès agit pour que Briand cède à Combes. Bon. Et si Combes n'avait pas quitté le pouvoir, Briand était dans une situation extrêmement difficile, puisqu'il était obligé de présenter un projet où il en avait beaucoup cédé à Combes. Et sa peur, c'était que le centre, comme contre-projet, ressorte son projet initial, qu'il aurait dû soi-disant combattre. Bon. Bon. Donc, pour ça. Et puis, troisième élément, le fait quand même, bien sûr, c'est la gauche qui l'a voté au bout du compte, mais les articles de la séparation étaient votés par des majorités variables. Or, ces majorités variables, c'était impensable dans la logique de l'affrontement entre combistes et anticombistes. C'est parce qu'on n'est plus dans cette logique-là de 1905 que la séparation est possible.
Jean-Marc Chiappa,
c'est moi.
Sur justement la place de Combes, vous avez vu opiner du chef quand on a abordé le sujet.
Oh oui, absolument. Ce côté concordataire chez Combes, ce côté gallican chez Combes, ce côté contrôle de l'Église par l'État, ce côté il faut un bon catholicisme, il faut une bonne religion, il faut une bonne Église. Et cela ne peut que s'opposer à la conception de Briand. Jean l'a dit, et j'insiste, je suis à 1000%, ça fait beaucoup de pourcents, d'accord avec cela, c'est la question qui est la liberté de conscience. Le fait que le projet de Combes, comme le projet d'Allard, ne mentionne pas la liberté de conscience, font que ce sont des projets qui sont totalement antagoniques à la philosophie de Briand. Et dans l'ouvrage, j'ai mis plusieurs post-it et approuvé chaudement. Pour que la loi réussisse, il fallait que Combes échoue. Ça, je pense que c'est quelque chose d'essentiel. Il fallait, c'est très hegelien, pour tout processus inachevé se transforme en son contraire. Il fallait que le processus combiste, on va dire, échoue pour que le processus brillant réussisse. Personnellement, je trouve que c'est d'une clarté absolue, cette logique. Et le fait que la liberté de conscience ne soit pas mentionnée dans le projet de Combes, c'est terriblement éclairant. Il y a quelque chose dans tous les projets, pas tous les projets, je dis n'importe quoi, dans beaucoup de projets opposés à celui de Briand, le refus de la liberté de conscience, et ça me ramène à ce défi vis-à-vis de Jaurès contre Clémenceau, il n'est pas exclu qu'il y ait une manœuvre de la part de Jaurès de diviser les futurs membres de la SFIO contre les radicaux et de montrer que le fossé était vraiment incompatible, était vraiment impossible à creuser entre les deux. Comme nous sommes effectivement dans la préparation là, de ce processus de fusion, tout ce qui peut permettre pour Jaurès à unifier les futurs membres de la SFIO, et donc on unifie toujours en rejetant l'autre, peut être un élément d'explication. Mais sur la nécessité de l'échec de Combes, c'est une évidence. Et le fait d'ailleurs, pour en revenir à la discussion précédente, que ce n'est pas un compromis, c'est que les articles n'ont jamais été votés par les mêmes majorités et qu'à la fin, tous les députés qui auront passé leur temps à dire du mal de la loi vont être amenés à la voter. Ouais. Ce qui est assez paradoxal, enfin, même pas paradoxal, ce qui est proprement parlé stupéfiant.
Voilà. Oui, parce que ce qui est surprenant, Jean Bobéreau, c'est, alors là je vais donner une idée très générale et vous pourrez évidemment me corriger, mais quand vous faites une espèce de revue des réactions, notamment à travers la presse, au moment où la loi est votée par l'Assemblée, et effectivement, tout le monde a l'air de trouver que finalement c'est une loi très bien, alors que les mêmes journaux ou les mêmes personnalités politiques dans les jours qui précèdent sont vent debout et on dit cette loi ne passera jamais et c'est n'importe quoi.
Oui. Pourquoi ? Parce que la loi est à la fois un équilibre des frustrations et un équilibre des satisfactions. Bon. Et donc, les gens, tant qu'ils peuvent peser sur la loi, ils voient l'aspect frustrant. Mais pour le camp républicain, une fois que la loi est gagnée, on a quand même réussi ce que pendant 25 ans, on n'avait pas réussi à faire. Et c'est là où, justement, la personne qui a le mieux parlé de la loi, c'est Laurent Voulzy, en disant, avec la chanson, le premier, c'est désir. Alors, il faut inverser. Le second, c'est souffrir à ce moment-là. Le troisième, c'est plaisir. Et le quatrième, fait des souvenirs. Bon, parce qu'il y a à la fois... cette frustration qui fait qu'effectivement les gens sont vent debout, la gauche, enfin une partie de la gauche est vent debout contre la loi, et elle est vent debout contre la séparation avec un petit S, telle qu'elle se fait, et puis au final, elle est contente parce qu'on a réussi la séparation avec un grand S. Et elle est vent debout contre la conciliation, et elle est contente parce qu'il y a la victoire au bout. C'est là où, justement, il faut toujours être dialectique et voir qu'il y a ces deux aspects qui jouent. Alors, le mieux, à mon avis, quand même, le plus révélateur, c'est Jean Bepmal. Jean Bepmal,
c'est le vice-président de la commission, c'est un rat de socle bondin. Et justement, dans le débat général, le dernier jour, le jour du vote de la loi, il démolit la loi de séparation. Disant qu'il va voter pour. Évidemment, ça crée un effet d'aubaine. Donc la droite dit qu'il faut afficher son discours, parce que comme il n'y a pas les réseaux sociaux, la télé, la radio, etc., l'information se diffuse par l'affichage des discours importants dans les 36 000 communes de France. Et à ce moment-là, le pauvre Jean Bepmal, il est obligé de lutter contre l'affichage de son propre discours, parce qu'évidemment, c'est un boulevard pour la droite si on affiche le discours d'un radical socialiste démolissant la loi. Donc, c'est quand même extrêmement piteux de sa part. Moi, personnellement, je préfère Allard qui est cohérent et qui a une forte personnalité et, à mon avis, une intelligence stratégique redoutable. Si ce n'était pas heurté à Briand, qui était encore plus fort à l'art aurait pu vraiment entraîner les radicaux socialistes, à Bethmann, qui me semble très piteux et qui me semble être dans les lieux communs.
Alors, brillant plus fort, vous résumez sa stratégie aussi en musique. Alors, puisqu'on parlait tout à l'heure, à l'instant plutôt, de Laurent Voulzy, vous citez, pour parler de brillant, Luc Plamondon dans Starmania. On vit les uns avec les autres, on se cajole, on se déchire, mais au bout du compte, on se rencontre, on est toujours tout seul au monde. Alors, pourquoi est-ce que brillant finit tout seul au monde?
Parce que, justement, que de manière assez extraordinaire, au moment du vote de la loi, à part lui-même, évidemment, qui fait la promotion de sa loi et qui dit « j'ai réussi là où tous les autres avaient échoué, là où Jules Ferry l'avait pas fait, Gambetta l'avait pas fait, Paul Bert l'avait pas fait, Valdec Rousseau l'avait pas fait, etc. » Ah, il cite pas con, parce que con a un pouvoir de nuisance, donc il le ménage. Bon. Et moi, j'ai réussi, donc évidemment, il fait la promotion de sa propre loi. Mais tous les autres discours des gens de gauche sont hyper critiques par rapport à la loi. Les deux seuls qui disent « Ah ben cette loi, elle n'est pas si mal que ça », c'est deux personnes de centre-gauche, enfin, un centre-gauche et Deschanel qui est centre, et qui dit « Il faudra encore l'améliorer, il faudra encore que le Sénat fasse quelque chose de plus conciliateur, etc. etc. » C'est-à-dire que personne ne trouve que la loi est bonne. Mais comme vous le dites, la presse, elle, dès le lendemain, c'est une victoire. La presse de gauche, la presse républicaine. Mais le 3 juillet, Brillant, il est seul à défendre sa loi. Et c'est un siècle après où tout le monde est pour la loi de 1905.
Jean-Marc Chappin, à vos yeux, est-ce qu'on peut dire que c'est une loi de gauche, du coup, cette loi de 1905?
Oui et non. Parce que Kennedy disait que la victoire à son père et la défaite est orpheline. Là, c'est une loi où, effectivement, le père, c'est Brillant, même s'il y a beaucoup d'accompagnateurs, c'est une loi, à partir du moment où c'est une loi qui garantit la liberté de conscience, tout le monde peut s'y retrouver. Et ce qui me semble important dans la discussion, la loi a été votée en juillet, et on parle toujours de la loi du 9 décembre parce que c'est le Sénat. Et qu'est-ce qui s'est passé entre les deux moments? Alors, je suis désolé, enfin, je ne suis pas du tout d'ailleurs. Il y a eu à ce moment-là, en septembre, le Congrès mondial de la libre pensée, le Congrès du prophète Moreau, qui a donné consigne explicitement aux sénateurs libre penseurs de voter la loi sans aucun iota de modification, parce qu'autrement, tout le cycle législatif recommençait. Et Anatole France, président d'honneur de la libre pensée, a cette formule que je trouve absolue, que je trouve définitive. Quand il y a séparation, avec ou sans S plus Q, peu importe, c'est la République qui triomphe et l'Église qui est en échec. Et pour considérer tout ce qu'on veut, les modifications, les ajouts, les effets, tout ce qu'on veut, il y a une formidable séparation. La chose est actée. De ce point de vue-là, c'est l'influence du Congrès du Trocadéro, du Congrès mondial du Trocadéro, de la libre pensée. Donc, dire que c'est une loi de gauche ou une loi de droite, ce n'est pas une loi cléricale, c'est une évidence. Quoique, il y a eu cette discussion qui me semble extrêmement intéressante. Et Jean, à juste titre, a fait de longs développements sur la pensée de Dallard, de Maurice Dallard, qui est une pensée effectivement cohérente, dans lequel il se revendique de la liberté de conscience, mais il exclut la liberté religieuse de la liberté de conscience, ce qui est un peu difficile. Or, ce n'est pas une loi cléricale, quoique, mais c'est une loi dans laquelle tout le monde doit pouvoir se retrouver. Donc, la qualifier comme loi de gauche ou comme loi de droite, ou je ne sais trop quoi, comme ça, c'est pas opérant comme qualification de mon point de vue, mais je peux me tromper.
Vous confirmez, Jean-Marc Le
Pen ? Oui, c'est-à-dire que, elle est quand même, c'est quand même la gauche qui la vote. C'est quand même la gauche qui la vote. Et justement, on peut au moins reconnaître aux gens qui étaient dans la vulgate
de gauche, à très anticlérical, etc., qu'au moins ils ont voté la loi. Mais ils l'ont voté avec aigreur. Et c'est vrai que du coup, c'est une loi où, finalement, s'il n'y avait pas eu la question est-ce que le pape va l'accepter ou pas, les catholiques l'auraient tout de suite accepté. En fait, ils sont coincés parce que la loi n'est pas persécutrice, au contraire, elle leur donne une liberté qu'ils n'ont jamais eue, ni sous l'Ancien Régime, ni pendant le Concordat. Mais ils sont bien catholiques au sens où les anticléricaux, justement, leur reprochaient de l'être, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas prendre parti tant que le pape ne s'est pas prononcé. Bon. Et donc, ils ne peuvent pas accepter la loi, mais en fait... alors, c'est les dissidents du combisme, hein, la gauche dissidente du combisme, qui dit, finalement, tout le monde est content. Tout le monde a l'air d'être mécontent, mais tout le monde est content. Et je crois que c'est ça le génie de la loi, c'est d'arriver à ce que tout le monde soit un peu frustré, mais du coup, tout le monde y trouve son compte. Et c'est peut-être ça la démocratie aussi, d'arriver à faire des règles où personne n'a une satisfaction absolue, mais où chacun y reçoit, disons, quelque chose qui lui permet de vivre, et de vivre ensemble, et de vivre avec les autres. Bon. Et ce souci de l'égale liberté de conscience est quand même le fil directeur de la loi. Et pour déborder un peu sur l'actualité, moi, ce que je trouve très significatif, c'est qu'on parle beaucoup de laïcité actuellement, mais très peu de l'égale liberté de conscience. Très peu de l'égale liberté de conscience. On met tout à fait d'autres choses à côté de la laïcité, alors, qui en même temps sont aussi des choses dans lesquelles on pouvait s'embourber en 1905, puisque Briand a cette remarque devant la commission en disant « Je reçois énormément de lettres de gens qui me disent interdisez la soutane dans l'espace public. » Et il est interloqué, il dit « Ces gens-là, pour eux, la séparation, elle est tout entière dans le costume. » Il trouve ça idiot, il trouve ça ridicule, il dit que c'est ridicule. Bon. Mais voilà, est-ce qu'il n'y a cette obsession du costume qu'on retrouve en 1905, mais qui a échoué, puisque l'amendement interdisant le port de la soutane dans l'espace public a été rejeté, mais qu'on retrouve après chez certains laïcs dans les décennies, dans ces dernières décennies.
Tout à l'heure, Jean-Marc Chappa parlait de l'influence entre le moment du vote de l'Assemblée et celui du Sénat, de la libre pensée. Oui. Dans cette période, justement, entre les deux votes, vous confirmez que c'est un élément déterminant de l'évolution de la loi quasi, enfin, à l'identique dans cette période ?
Oui, alors à la fois, disons, justement, quelqu'un comme Buisson, par exemple, hein, qui était un chef de la libre pensée, il était... À la fois, il avait des critiques par rapport à la loi, mais il estimait que, justement, c'était un miracle laïque, il a parlé, c'est lui qui a utilisé le terme de miracle, d'arriver à faire la séparation. Donc, il a usé de son influence pour que la loi... Bon, Anatole France, que dès le vote de la loi par les députés, fait pression sur Clémenceau pour que Clémenceau... Ne fasse pas le chien dans un jeu de quilles, bon, etc., etc. Et il y a deux congrès, en fait. Hein. Il y a le congrès national de la libre pensée en juillet et il y a le congrès international en septembre. Et c'est clair que si en septembre, on avait dit aux sénateurs libre penseurs, bon, ben, écoutez, essayez d'améliorer la loi, puisque c'était le terme utilisé par la gauche, améliorer la loi, bon, à ce moment-là... il y avait la nécessité d'une... Le Sénat changeait, donc il y avait la nécessité d'une seconde lecture. Et comme il y avait les élections générales au printemps de 1906, effectivement, comme le dit Jean-Marc, la séparation n'était pas votée. Et alors la campagne électorale a permis toutes les dérives. Parce que quelque chose aussi, moi, qui m'a impressionné dans ces recherches, c'est le nombre de fake news. Hein. On croit que les fake news, c'est récent. Ben, disons que la diffusion des fake news est beaucoup plus forte maintenant avec les réseaux dits sociaux, le numérique, etc. Mais enfin, vous avez plein de fake news au niveau de la presse au moment de la séparation.
Vous en avez repéré des marquantes des fake news de l'époque
Pardon ?
Vous en avez repéré des marquantes des fake news de l'époque
Pas autant que Jean, mais quelque chose dans l'ouvrage me semble extrêmement important. Je l'ai non seulement un post-it, mais j'ai même coché la page sur la question de la liberté. Imposera-t-on des manifestations religieuses à ceux qui ne veulent pas les voir ? Et la réponse est oui. Oui. Et c'est, je pense toujours, et c'est brillant, ne pouvait pas connaître, puisqu'elle est postérieure, la célèbre phrase de Rosa Luxembourg, mais qui pour moi est exceptionnelle. La liberté, c'est toujours la liberté de celui qui pense autrement. Et la méthode de penser, et qui va aboutir à toutes les discussions, y compris difficiles. On a eu un échange, et peut-être qu'on aura l'occasion de l'avoir sur l'amendement Sibille. C'est pas évident du tout comme amendement. Et pourtant, c'est simple, c'est le fait que... Enfin bon, Jean l'expliquera mieux que moi. Mais c'est la liberté qui doit être au centre. Alors les fake news, j'ai repéré d'autres choses, mais pas tellement les fake news. J'ai cherché une citation d'Eddie Mitchell à dire vrai, mais j'en ai pas trouvé.
Il y a les Rolling Stones, donc...
Il y a les Rolling Stones. Je voulais qu'on revienne sur le point qu'on a vu au début, sur cette victoire conciliatrice, parce qu'il y a un élément de contexte qu'on a finalement un petit peu effacé, qui est, alors que vous y revenez beaucoup dans le livre, c'est ce conflit entre les deux France. Et j'aimerais bien que vous nous précisiez un peu comment s'articule en 1905 cette victoire conciliatrice, donc avec les réserves qu'on a exprimées largement, mais où il y a quand même un certain accord autour de la loi, et le fait qu'il y a quand même malgré tout ce contexte en France d'opposition forte. Est-ce que ça veut dire que la victoire conciliatrice, elle est limitée au cercle politique dans le pouvoir législatif, ou est-ce qu'elle s'étend, et voilà, comment s'articule-t-elle en tout cas avec cette idée d'un conflit net entre deux France qui a priori s'opposent et vont s'opposer au moment d'appliquer la loi ?
Alors, ça se relie aux fake news, parce que les fake news, c'est de dire que la loi va être persécutrice, va être spoliatrice, va être etc. Et que, en fait, comme justement on ne peut pas l'appuyer sur les articles de la loi, on dit on vous met la corde au cou, mais de manière large, donc vous respirez bien, etc. Et puis, une fois que la loi sera votée, on resserrera la corde et on vous étranglera au fur et à mesure. Bon. Donc, bon. Mais tout le génie de Briand, c'est d'arriver justement à isoler les gens qui sont dans ces fake news et qui sont dans cette logique. Et de dire, c'est des... Alors, il les appelle des catholiques surexcités et toujours prêts à la bataille. Bon. Mais il dit, il y a des catholiques, justement, alors qui ne pensent pas comme nous, qui sont traditionnalistes, qui sont pour la hiérarchie, alors qu'évidemment, la grande valeur républicaine à l'époque, c'est le débat, c'est être contre la hiérarchie, etc. Bon. Ces catholiques-là, il faut les inclure dans la République. Bon. Donc, autrement dit, il y a au départ ces deux France qui se sont combattues et qui ont radicalisé le combat au moment du combisme, d'Émile Combes. Et Briand, lui, il va au contraire faire une France qui englobe les libres penseurs, les minorités religieuses, mais ça c'était déjà la France républicaine, et des catholiques, en disant ce qui était vraiment contre la vulgate anticléricale lambda, en disant que la foi peut avoir une certaine autocritique, hein, que c'est les gens qui ont la foi, ils peuvent avoir malgré tout une réflexion critique sur leur foi. Bon, ce qui est, à l'époque, c'est assez original. Bon, mais qu'il faut isoler donc ce qu'il appelle les catholiques surexcités. Donc, aux deux France, ils substituent une France, disons, qui respecte les lois, quoi qu'elle pense, donc une France pluraliste, on peut dire, même si ce n'est pas aussi explicite que ça, mais une France pluraliste, et puis une petite partie d'adversaires déterminés qui, eux, veulent combattre la République. Bon, dans le film auquel on a fait allusion, c'est Dautry d'Aubenson, etc., c'est les monarchistes. Bon. Et donc, il casse la logique des deux France. Alors, ce qu'il faut dire quand même, c'est que justement, il a quand même, au centre droit notamment, des gens qui ne font pas la politique du pire, et qui accepte donc de collaborer à l'élaboration de la loi, ce qui lui permet d'avoir des majorités variables. Il y a des articles qui sont votés grâce à l'appui du centre droit et même de gens de droite, contre la majorité de la gauche. Bon, c'est pour ça d'ailleurs que la majorité de la gauche, évidemment, n'est pas forcément contente. Bon. Mais donc, il casse cette logique des deux France. Alors, c'est là où il y a quand même un alignement des planètes, c'est-à-dire que il n'aurait pas réussi tout seul par une baguette magique. Et moi, j'accorde beaucoup d'importance au fait qu'en 1903, au moment fort du combisme, Combes veut dire « l'horizon est à la paix ». Il y a l'alliance avec l'Angleterre, il y a l'alliance avec la Russie, on se réconcilie avec l'Italie, c'est d'ailleurs une des raisons, d'ailleurs, la dispute avec Rome, etc., avec le Vatican. Bon. Et puis, à partir de février 1904, il y a la guerre russo-japonaise. On croit que les Russes vont faire une bouchée des Japonais. Là, Anatole France, d'ailleurs, s'amuse en disant « Mes soldats japonais, on vous dit que vous êtes des singes, alors pourquoi vous fuyez pas dans les arbres devant les Russes ?» Bon, il se moque des théories racialistes qui sont fortes à l'époque. Hein. Bon. Donc, les Japonais gagnent des batailles. Donc, c'est la sidération, c'est la sidération. On a peur d'une déflagration mondiale du conflit parce que l'Angleterre est alliée au Japon et la France, soi-disant neutre, aide la Russie. La flotte russe mouille dans tous les ports de l'Empire français, etc. Et donc, objectivement, soit il faut retarder la séparation, soit il faut faire une séparation qui ne soit pas conflictuelle, qui n'aille pas dans le sens de la guerre des deux France, parce qu'on ne peut pas se permettre de radicaliser la guerre des deux France dans une situation internationale où l'allié russe est complètement dans la mouise et donc pour l'Allemagne, son front est est dégarni, elle devient plus menaçante, etc. etc. Le changement au niveau international, et ça, à mon avis, ça n'avait pas été vu par les historiens, mais le changement de conjoncture internationale compte beaucoup dans cette possibilité, mais c'était encore une fois une possibilité virtuelle. Après, pour le concrétiser, il fallait que les acteurs soient au charbon, si je puis dire. Bon. Donc voilà, ce changement international crée quand même une nouvelle donne.
Alors, une dernière question qui ne va pas clore la discussion, parce qu'on va ensuite prendre des questions dans la salle, mais justement dans ces différents facteurs aussi qui peuvent expliquer pourquoi la loi passe. Il y a une grande attention sociologique, on pourrait dire, de ce qu'est la société française. Dans les thèses que vous énoncez à la fin comme des conclusions de votre travail, vous dites dans la troisième, pour les parlementaires, le paysan électeur sera juge de l'acceptabilité de la séparation par le pays. Et alors, si voilà, dans ces deux grandes catégories de la population à l'époque, que sont les ouvriers et les paysans, il y a une attention à la façon dont ces groupes et leurs représentants peuvent jouer, et on penche plutôt du côté du paysan qui est supposément le plus proche de l'Église et qu'il ne faut pas trop heurter.
Oui, alors, et puis qui est, la France est encore à moitié rurale. C'est Antoine Prost dit que par rapport à l'Angleterre ou à l'Allemagne, la France est encore un pays beaucoup plus rural. Bon. Donc, alors, il y a le suffrage masculin, en fait, mais tous les hommes votent. Et donc, alors, le paysan, il est conçu de la manière suivante, c'est-à-dire que il y a une répartition genrée des rôles. Hein. Les familles, disons, sont dans une dialectique de proximité et de distance vis-à-vis de l'Église catholique. De distance, parce qu'ils ne veulent pas obéir à toutes les normes catholiques, et notamment... la France est un pays où il y a beaucoup de contrôle des naissances par les moyens du bord de l'époque, mais il y a un contrôle des naissances qui marche puisque la démographie n'augmente pas. Et ça se fait en contradiction évidemment avec les normes de l'Église catholique et fait que du coup les hommes ne font pas leur Pâque. Bon. Mais en même temps, donc ils veulent à ce niveau-là se distancer de l'Église catholique et ils sont prêts à accepter la laïcité, mais en même temps, ils veulent pouvoir baptiser leurs enfants à l'Église catholique, se marier à l'Église catholique, Et surtout être enterré catholique, parce que, à part des militants libres penseurs, hein, un petit noyau au niveau statistique, les autres, ils veulent un enterrement religieux. Bon. Donc il faut bien que quelqu'un dans la famille fasse le lien avec l'Église catholique, et c'est la femme qui fait le lien avec l'Église catholique. Bon. Donc il y a cette répartition genrée, mais si la séparation est dure et que la séparation aboutit à la suppression du culte dans des petites communes, alors là, on ne va plus pouvoir sonaliser les grands moments de la vie sur le plan religieux, et donc on ne va pas accepter. Et c'était aussi une des raisons qui faisait qu'on ne réalisait jamais la séparation, c'est que la séparation que voulaient les militants républicains et la séparation qui était supportable, acceptable par les électeurs n'était pas la même. Et on était dans ce conflit d'une séparation dure voulue par les militants et d'une séparation, je dirais, conciliatrice, qui, elle, pouvait être ratifiée par le corps électoral. Et il faut quand même dire, même si ça anticipe sur le tome 3, qu'en mai 1906, ça va être une victoire historique. Les républicains qui déjà avaient gagné en 2002, en 1902, ont encore plus gagné en 1906. Donc le pays, ce qu'on appelle le pays, ratifie très largement la loi de séparation.
Jean-Marc, je sais pas, vous n'êtes pas d'accord sur les
ouvriers. Non, il y a une formule, pas une formule, mais ça demanderait à être nuancé. Oui, les élections de 1906 vont, concrétiser le pari de la séparation. Ça, je suis absolument d'accord. Il y a une formule, bon, entre nous, on discute comme ça, c'est pas... que je ne partage pas de manière aussi ramassée, le paysan proche de l'Église. Le paysan, la paysannerie, dire le paysan, ça serait la paysannerie en France à cette époque-là, traditionnellement depuis 1789, elle est fondamentalement non pas anti-religieuse, non pas a-religieuse, mais anticléricale. Et les grands moments de la vie sont des moments de sociabilité qui passent par des expressions religieuses, après tout, pourquoi pas les banquets, les mariages, les enterrements, etc. La crainte des paysans tout au long du XIXe siècle et effectivement pour une grande partie du XXe, ça va être, elle est de deux ordres, soit les partageux, soit le retour de l'Église, donc de la dîme, donc des impôts d'ancien régime, etc. etc. Donc il y a une aspiration à une prise de distance vis-à-vis de l'Église, non pas comme croyance, non pas comme système organisé de croyance, mais comme facteur de possible trouble ou de possible facteur de possible difficulté d'ordre fiscal, d'ordre financier, d'ordre foncière. Ça, il y a un attachement de la paysannerie aux acquis de la Révolution française qui est incontestable, qui fait que... Mais attention, j'ai approuver cette troisième thèse sur le pari de l'électeur paysan. Il faut que le paysan et l'électeur se retrouvent dans la séparation. Je souscris totalement. Les élections de 1906 l'ont prouvé. Donc ma nuance, elle portait sur un morceau de phrase. Mais je suis très taquin.
Mais oui. Et moi, souvent imprécis.
Pardon ?
Et moi, souvent imprécis.
Mais non. Vous travaillez à Libération, ben voilà, enfin.
Y a-t-il des questions, monsieur ?
Oui, trois petites questions très rapides.
Attends, on va te donner un micro.
L'autre micro.
Pardon.
Excusez-moi.
Première question, à propos du rôle de Jaurès. L'article 4 de la loi est considéré comme un article très important, puisque c'est celui qui précise dans quelles conditions est-ce que les biens seront dévolus une fois la séparation faite. J'avais toujours cru comprendre que cet article... J'avais toujours cru comprendre que cet article avait été, devait beaucoup à Jaurès. Donc voilà, une explication sur cet aspect important. Deuxième petite question, je suis d'accord sur ce que vous avez dit tous les deux à propos du compromis, mais à un moment donné, on a aussi utilisé le terme de pacte à propos de la loi de 1905.
Pacte laïque. Donc là aussi, il y a deux mots.
Les deux mots, tu as raison. Est-ce que c'est la même chose ou comment est-ce qu'on doit l'interpréter? la différence entre le compromis et le pacte laïque au regard de cette histoire. Et ma troisième question qui sort du cadre du livre, mais est-ce qu'il y a aujourd'hui des résonances à propos du débat sur la laïcité par rapport à cette époque? Ou est-ce que le débat d'aujourd'hui sur la laïcité n'a plus rien à voir avec les enjeux et les thèses ou les thèmes qui étaient contenus à ce moment-là, en 1905? Voilà. Est-ce qu'il y a un prolongement ou est-ce que c'est quelque chose de différent?
Bon, alors, la première question, réponse rapide, c'est que, en fait, moi aussi, hein, je pensais que, et ce discours du 21 avril, le film avec c'est Drouot qui joue Jaurès et qui habite le personnage, etc. Bon. Et après mes recherches, Jaurès le matin, il n'a pas fini son discours, il faisait un autre discours le matin, il n'a pas fini le discours, il est malade, il vomit, etc. Bon. Et ma thèse, c'est que si... Alors, l'après-midi, il fait son fameux discours. Bon. Que si Jaurès, malade, n'avait pas fait son discours l'après-midi, le résultat aurait été exactement le même. Parce que il y a 40 socialistes jaurésiens, il y en a 22 qui votent l'article 4. Ces 22, ils étaient déjà décidés à voter l'article 4 dès la veille avec le discours de Briand. Et le centre-gauche n'apprécie pas Jaurès, hein, qui va voter l'article 4, ils n'apprécient pas Jaurès. Tu verras dans le livre, mais j'aimais la thèse qu'en fait ce discours n'a rien changé et qu'au contraire, si Jaurès a aidé Briand, c'est alors à propos d'un fameux article 6 bis dont aucun historien ne parle, mais qui pour moi a été très important, et où là Jaurès a été roublard, parce qu'il y avait une alliance entre les radicaux et le centre-gauche, et il a tellement embrouillé l'affaire que plus personne s'est retrouvé, et que du coup l'alliance entre le centre-gauche et les radicaux a été rompue. Bon. Donc moi, j'ai par rapport à Jaurès, je suis complètement à contre-courant, c'est quand il a été roublard et qu'il a aidé Briand, et quand il a été tribun, il ne l'a pas aidé du tout. Bon. Voilà pour Jaurès, mais la démonstration, je ne peux pas la faire ici, je la fais dans le bouquin. Bon. Là, alors la seconde, le pacte laïque, si tu veux, laïque, donc victoire, pacte, donc aspect conciliateur. C'est-à-dire que ce que j'appelle pacte laïque, c'est effectivement la possibilité d'inclure des gens de l'autre France qui ne sont pas les catholiques surexcités. Autrement dit, de faire allégeance aux principes de la République et pas aux valeurs de la République. Bon, là aussi, ça serait à poursuivre, mais il y a une différence entre des principes fondamentaux justement, la séparation est un principe fondamental, et puis les valeurs de la République, qui d'ailleurs à l'époque n'étaient pas les valeurs d'aujourd'hui, parce qu'à l'époque, la virilité était une grande valeur de la République. Bon, ce n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui. Bon. Et ça amène à la troisième question. Oui et non, la réponse est oui et non. C'est-à-dire qu'évidemment, le contexte est très différent. Hein. Évidemment, les problèmes sont différents. Bon. Mais en même temps, il y a des analogies. Et il y a toujours des analogies entre le passé et le présent, parce que l'être humain a certaines constantes. Bon. Et c'est frappant de voir que, justement, le débat sur la soutane, les arguments qu'on trouve pour ou contre la soutane dans l'espace public, l'autorisation de la soutane dans l'espace public, sont des arguments. On enlève soutane et on met foulard, et ça marche tout aussi. Bon, alors ce qu'on peut dire, et là, il faut que Dora ait la parole, c'est que il y a aussi un impensé de la séparation, c'est que la séparation n'a pas été appliquée en Algérie, hein, et donc n'a pas été appliquée à l'islam. Mais ça, donc, Dora a écrit le chapitre, elle peut peut-être en parler, non ?
Je vais parler avec le masque, mais je vais être très bref.
Oh, tu oui, peux en...
Je peux l'enlever. En effet, la laïcité n'a pas été appliquée en Algérie pour des raisons multiples à partir de 1830, d'ailleurs dès le traité de capitulation, où ce traité mentionnait que la liberté de croyance et des biens des indigènes algériens serait protégée, donc de Bourmont, la capitulation de Bourmont. Et ensuite, il faut comprendre que la laïcité en Algérie n'était pas, justement, je paraphrase, un bon article d'exportation, dans la mesure où il régnait un gallicanisme assez étroit en Algérie et que l'idée était de mettre sous tutelle. Alors, Franck Frégosi, bon, je serais un peu moins difficile sur le terme domestiqué. L'islam était en voie de domestication pour pouvoir éviter qu'il ne se prononce contre justement cette politique d'expansion coloniale. Mais on a souvent dit en Algérie que les indigènes étaient contre l'instauration de la loi de séparation. Et c'est faux. Par exemple, l'émir Khaled, de la famille de l'émir Abdelkader, accompagné d'autres notables algériens, ont réclamé à corps et à cri l'application de la loi dite de séparation, justement pour éviter que la tutelle administrative française ne puisse s'insérer dans les mosquées, dans les lieux de culte. Et il y a eu aussi le début d'un développement d'une forme de nationalisme réformiste en Algérie, justement, qui a mis un peu le feu aux poudres. Voilà, pour résumer.
Merci beaucoup. D'autres questions ? Oui, c'est peut-être dans le sens. Ouais.
Bonjour, c'est pour rebondir sur ce qui vient d'être dit. Moi, je ne suis pas un spécialiste, mais j'ai entendu la loi de séparation avec un grand S. Et je me posais la question, pourquoi en fait cette loi a eu moins de succès à l'international que peut-être que la fête de la musique de Jack Lang.
Parce qu'on a beaucoup parlé de musique.
Voilà, exactement.
Et peut-être que c'est l'occasion aussi de dire un tout petit mot des sources d'inspiration étrangères de la loi.
Oui, c'est ça.
Et des conséquences.
C'est ça.
Et des reprises.
Oui. Bon, ce qu'on peut dire, oui, c'est que d'abord, la loi n'est pas une exception française. C'est-à-dire qu'il y a eu l'invocation de modèles étrangers. Et alors, les États-Unis, justement, le fameux article 4 auquel Michel Morino a fait allusion, c'est une importation, disons, d'un article d'État confédéré américain. Donc, il y a un certain transfert culturel, un aspect interculturel dans la loi de séparation, puisque cet article, qui a été un article très important, a trouvé sa source aux États-Unis. Bon. Mais il y a aussi toute une inspiration du Mexique. La séparation au Mexique avait été réalisée en 1859 et puis confirmée par une loi en 1874. Et la loi mexicaine est souvent invoquée, etc. Bon, donc, il y a des modèles étrangers, disons, à la loi de 1905. Bon. Inversement, on peut dire qu'elle a quand même eu des effets. Et justement, une des raisons que le pape, du refus de la loi par le pape, c'est la crainte du fait que ça fasse tache d'huile. Et par exemple, en 1906, l'Espagne bouge beaucoup au niveau des problèmes politico-religieux et le pape a peur que l'Espagne adopte une loi de séparation. Bon, ça ne va pas être le cas finalement, mais la loi de séparation, évidemment, il y a des gens à l'étranger qui s'y intéressent et qui la regardent. Bon. Mais ce qu'on peut dire, c'est que la voie de la liberté de conscience dans d'autres pays ne s'est pas fait. Le problème de la France, c'est qu'il a fallu apaiser le conflit des deux Frances. Bon. Tandis que dans d'autres pays, ça a été une pluralisation progressive de la société. Donc le processus n'est pas le même. Mais au bout du compte, ben, la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, vous retrouvez les idéaux de la loi de 1905. Et la France, d'ailleurs, a adhéré à cette convention. Des fois, il arrive, je cite un cas dans le livre à partir d'une plainte de l'Union des athées, des fois, il arrive que l'Europe donne une leçon de laïcité à la France. Parce que, justement, la Cour européenne a estimé que la France traitait plus mal l'Union des athées que des associations religieuses, cultuelles. Bon. Et donc, là, elle a dit à la France de faire gaffe, et la France a dû rectifier le tir pour ne pas être condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme. Donc, des fois, ce qu'on peut dire, c'est qu'en Europe, c'est plus une laïcité des conséquences que l'affirmation explicite d'un principe laïque. C'est-à-dire que s'il y a des atteintes à la liberté de conscience, eh bien, il peut avoir appel devant la Cour de justice de l'Union européenne, et même du Conseil de l'Europe, plus exactement, du Conseil de l'Europe, et il y a des condamnations. La Suède a été condamnée, par exemple, et c'est pour ça, d'ailleurs, que la Suède, après, a réalisé la séparation de l'Église et de l'État, de l'Église luthérienne, puisque c'était la seule qui était officielle, et de l'État. Bon, la Grèce a été condamnée, etc., etc. Il y a eu plusieurs pays. Donc, le Conseil de l'Europe et la Convention européenne des droits de l'homme est un peu le garant d'une forme de laïcité qui n'est pas tellement éloignée, finalement, de la laïcité de la loi de 1905.
On a le temps pour une toute dernière question.
Merci. Merci à tous les deux, à tous les trois même. Alors, je voulais dire... oui, est-ce que vous pouvez nous préciser séparation avec un grand S et séparation avec un petit S, repréciser les choses? Deuxièmement, ceux qui voulaient encore plus dans le sens laïcité républicaine, disons, qu'est-ce qu'ils auraient souhaité de plus? Pour les autres, on comprend ce qu'ils ont... Et enfin, je crois que la loi dit qu'elle ne reconnaît aucun culte. Reconnaître. Or, là, ça, dans les faits, il semble... Mais je crois que certains disent que ce sens que le reconnaît avait un autre sens à l'époque.
Oui, alors... attendez, il faut me rappeler les trois questions. Ah oui, bon, alors, la séparation avec un S, c'est le principe de séparation. C'est le fait... d'abolir le concordat et les articles organiques et de supprimer le budget du culte. C'est ça qui est dans le programme républicain dès la fin du Second Empire, et c'est ça que j'appelle la séparation avec un S majuscule. Bon. Et d'ailleurs, des propositions de loi qui s'étaient faites dans les années 80, etc., étaient des propositions de loi très, très courtes où, justement, on abolissait le concordat, les articles, et pas les articles organiques, forcément, justement. Et on abolissait le concordat, on abolissait le budget du culte. Bon. Le problème qui est posé à partir de 1903, c'est de dire... ben, il ne suffit pas de dire qu'on abolit le concordat et on abolit le budget des cultes. Il faut trouver une manière positive, disons, de l'exercice du culte en France. Bon. Et cette manière positive, eh bien, elle nécessite d'aller un peu dans le détail, de prévoir un certain nombre de conflits qui peuvent arriver, etc., et que ces conflits puissent se résoudre par voie judiciaire. Donc, il faut qu'il y ait des articles de loi pour qu'après, les tribunaux puissent trancher s'il y a conflit. Bon. Donc, il y a construction de plusieurs propositions de loi. Et alors, ça permet de basculer sur votre seconde question. Par exemple, la proposition de loi de Francis de Pressensé, qui après va être brillantiste, mais qui, dans un premier temps, est beaucoup plus radicale, elle dit que les églises... ce qu'il faut dire, c'est que depuis la Révolution, les églises, pour l'immense majorité, sont propriétés communales, et puis les cathédrales sont propriétés de l'État. Les églises, en dehors des heures de messe, on va pouvoir tenir des réunions de l'université populaire, on va pouvoir tenir des réunions de la Ligue de l'enseignement, on va pouvoir, etc., etc. Bon. Ce qui... Bon, pourquoi ? Parce qu'il y a des communes où l'église est le seul lieu où il y a une grande salle, finalement, où on peut se réunir nombreux. Bon. Mais pour l'église catholique, c'est une profanation. C'est une profanation, donc c'est un casus belli. Bon. Et comme ça, il y a plusieurs choses qui sont... Bon, alors, de même, au départ... on se dit qu'on va louer les églises, hein, puisqu'elles sont propriété publique. Alors, la question, c'est qu'est-ce que vaut Notre-Dame de Paris ? Comment on va louer Notre-Dame de Paris ? Bon, Allard dit qu'on va les louer 5% de leur valeur. Bon, alors, Notre-Dame de Paris, y a des catholiques qui disent seul un milliardaire américain pourra... louer Notre-Dame de Paris. Bon. Alors finalement, le premier projet brillant dit on va les louer pour un dixième du budget de l'association cultuelle. Donc l'association cultuelle de Saint-Germain-des-Prés, elle a un budget de 100 000 francs or. Bon, ben, on peut la louer pour 10 000 francs, mais... Une église de paroisse qui a un budget de 1000 francs, par exemple, eh ben on la louera 100 francs. Bon, donc, vous voyez, on va le faire de telle sorte que ça ne grève pas le budget. Bon. Mais pour l'église catholique, elle n'accepte pas ça non plus. Et finalement, ce qu'on fait, c'est une dévolution gracieuse, indéfinie. Bon. Donc, l'État reste propriétaire, ou les communes, mais c'est dévolu gratuitement au culte. Bon, c'est une situation très agréable. Vous aimeriez bien être locataire sans avoir à payer un sou. Hein. Bon. Donc voilà, et on pourrait multiplier les exemples, mais là aussi je vous renvoie au bouquin, sur beaucoup d'exemples comme ça, parce qu'à la fin je fais une annexe, où je mets les premiers projets, les premières propositions de loi, puis le projet d'Émile Combes, et puis le projet finalement brillant de la Commission, et puis la loi, et on s'aperçoit qu'à chaque étape, ça va dans le sens d'une conciliation. Et la troisième question...
Le sens de reconnaître dans l'Église.
Ah oui, alors c'est parce que ce qu'on appelle, nous, le régime concordataire, c'était en fait le régime des cultes reconnus. Le régime des cultes reconnus, puisqu'il y avait le catholicisme, deux cultes protestants, luthériens réformés, et le culte israélite. Ils étaient cultes reconnus, donc ils avaient un statut officiel, il y avait le budget des cultes, etc. Bon. Et alors là, justement, ça, c'est un des ratés de la séparation, c'est-à-dire que la commission, quand elle dit qu'elle fait l'article 2, on reconnaît aucun culte, Briand se dit, ça serait pas mal, parce que c'est équivoque, reconnaît, de mettre reconnaît officiellement. Personne n'est contre, mais quelqu'un pose une autre question, donc la discussion dérape, elle n'est pas reprise après, et puis le officiellement disparaît. Et c'est dommage, parce qu'effectivement, après, il y a eu beaucoup d'équivoques, mais en fait, l'idée de la commission, et là, tout le monde était d'accord, c'était de dire, on ne reconnaît officiellement aucun culte. Ce qui aurait été beaucoup plus clair.
Bienvenue Martin l'explique.
Oui,
ça.
Oui.
Le fait que c'est pas...
Voilà. Mais voilà, c'est ça. À l'époque, c'est tout à fait bien expliqué par le ministre des cultes, par Briand, etc., qu'il s'agit de mettre fin au statut des cultes reconnus. Et pas. Et il y a un terme qui est très employé à l'époque, qui est le terme de respect. On ne reconnaît plus les églises, mais on respecte l'organisation de chaque église. Et ce thème de respect, on le trouve dans les débats parlementaires beaucoup de fois.
Alors pour terminer, je voulais qu'on revienne un petit peu au pont entre la loi de 1905 et aujourd'hui. On en a déjà dit un mot, mais Jean-Marc Schiappa, vous n'avez pas eu l'occasion de trop vous exprimer sur le sujet.
Vous, donc,
vous pourrez redire un mot si vous le souhaitez. Mais surtout en remettant aussi dans la discussion une notion que vous avez élaborée, Jean Bobéro, et vous en reparlez dans le livre, c'est celle de seuil de laïcisation. Et vous dites, selon ma perspective, la loi de 1905 achève le basculement commencé dans les années 1880 vers un deuxième seuil. La dominante d'aujourd'hui est celle d'un troisième seuil, autre cas de figure. Alors, j'aimerais bien qu'on revienne sur ces seuils, que vous nous disiez ce que vous entendez par là aujourd'hui, et du coup, pour retisser ce fil avec le début du XXe siècle.
On a jusqu'à dimanche.
On a, Encore 5-10 minutes.
Non, oui, si vous voulez, moi j'ai essayé de périodiser justement parce que à chaque époque, un contexte. Bon. Et donc, il y a, bon, jusqu'à la, globalement, hein, et de manière très très schématique, pour dire ça en quelques minutes, jusqu'à la Révolution, le catholicisme est une institution englobante, qui englobe, qui donne sa légitimité aux politiques, puisque le roi est sacré à Reims, bon, et puis qui domine les autres institutions. Et pour prendre un seul exemple, en 1763, il y a une épidémie de variole, il y a déjà la possibilité d'inoculer quelque chose pour combattre cette épidémie de variole. Ah, attention, il faut qu'il y ait l'autorisation de la faculté catholique de Paris pour pouvoir faire l'inoculation. Si elle est contre, on ne fait pas l'inoculation. Bon, donc, on voit bien que l'Église catholique est une Église englobante. Bon. Et est une institution englobante. Bon. Le premier seuil, qui est construit à travers la Révolution et le recentrage autoritaire que fait Napoléon Bonaparte, c'est de dire que l'Église catholique et les autres églises, puisqu'il y a pluralité à ce moment-là de culte, et du coup, donc, on passe à la notion de culte au pluriel, bon, sont un segment du social. C'est pas, ça ne surplombe pas l'ensemble du social, c'est un segment du social. Bon. Et alors, c'est une institution qui a deux missions pour l'État. D'une part, assurer les besoins religieux des Français, comme la médecine assure les besoins de santé, etc., l'école, les besoins d'éducation. Bon, il y a l'idée qu'il y a des besoins religieux objectifs et qu'une institution doit les assurer. Et la seconde mission, c'est d'assurer les fondements de la morale publique. Et Portalis, le conseiller de Napoléon, dit s'il n'y a pas la religion pour soutenir la morale, eh bien, c'est comme s'il y avait une justice sans tribunal. Parce que la religion, parlant des peines de l'enfer, etc., elle fait peur et elle empêche le passage à l'acte. Et donc, elle permet de prévenir les mauvaises pensées, le passage à l'acte, etc. Et donc, voilà, elle joue ce rôle de tribunal moral, si vous voulez. Comme, bon. Là, le second seuil, ben, justement, c'est la liberté de conscience qui prédomine. Donc, La religion, la liberté religieuse fait partie des libertés publiques. La religion n'est plus une institution au même titre que l'école, que la médecine, etc. C'est-à-dire qu'il y a libre choix facultatif, c'est une association, une organisation de la société civile et qui, en tant que telle, a toute liberté de s'exprimer, beaucoup plus de liberté qu'avant, parce que, justement, au XIXe siècle, quand elle était une institution, elle était étroitement contrôlée par l'État. Bon. Là, elle est beaucoup plus libre, mais elle fait partie de la société civile. Et finalement, quand on dit la religion est affaire privée, ça ne veut pas dire qu'elle est réduite à la sphère privée, ça veut dire qu'elle est un choix personnel. Et un choix personnel, ça peut être l'engagement religieux, ça peut être le refus de religion, ça peut être l'abstention. Hein, vous avez au niveau électoral, vous votez pour, vous votez contre, vous abstenez ou vous votez blanc, etc. Donc, ça devient quelque chose de volontaire et de libre, mais qui est au bénéfice des libertés publiques. Et c'est ça encore le second seuil. Bon. Mais alors, c'est porté, si vous voulez, par justement une sorte d'idéologie de conjonction des progrès, où la médecine, l'école, et d'une manière générale, disons, la République, est porteuse de promotion sociale, est porteuse de progrès, etc. Bon. Et le troisième seuil, c'est cette crise de cette notion de progrès qui était un peu la conjonction de tous les progrès. Et bon, pour moi, parce que évidemment ça se déroule à un niveau mondial, le symbole un peu de cette crise, c'est Fukushima. Parce que Tchernobyl, on pouvait dire, c'est l'URSS qui n'a pas su se débrouiller, etc. Mais Fukushima, c'est à la fois, bon, comme Lisbonne, comme le tremblement de terre de Lisbonne, d'abord une catastrophe naturelle, Sauf que le tremblement de terre de Lisbonne, on se dit, grâce au progrès technique, grâce à une science technicienne, disons, on va pouvoir maîtriser ce genre de catastrophe. Tandis que là, à Fukushima, la technologie en a rajouté, enfin l'homme, disons, et ses inventions technologiques, avec le nucléaire, en a rajouté dans la catastrophe. Alors, c'est plus dialectique, en fait, parce que, à la fois, et c'est pour moi le troisième seuil, c'est un seuil où le progrès est ambivalent. À la fois, on peut dire que la technologie a prévenu des morts, parce que le Shinkansen, qui est l'équivalent du TGV, ils ont été, les conducteurs de Shinkansen, ils ont été prévenus qu'il allait y avoir un tsunami quelques minutes avant le tsunami. Ils ont freiné et le Shinkansen était arrêté au moment du tsunami. S'ils n'avaient pas été arrêtés, il y aurait eu des milliers de morts. Bon. Donc, on peut dire que le progrès a sauvé des vies. Mais en même temps, l'usine nucléaire, le bon nucléaire, puisque c'était du nucléaire pacifique, et on nous vante actuellement ce nucléaire pacifique, ça fait partie aussi de l'actualité française aujourd'hui. Bon. Mais en fait, il y a eu le tsunami et il y a eu la catastrophe nucléaire. Bon. Alors, je vous rappelle qu'il y a des centrales nucléaires dans les vignobles bordelais, par exemple. Bon. Et que le jour où il y aura une fuite,
le vin sera meilleur.
Le vin, oui, ça aura un autre goût, en tout cas. Bon. Oui, bon. Donc, voilà, le troisième seuil, c'est un seuil où on se pose, où il y a peut-être une progrès de la réflexivité, mais du coup, la réflexivité s'exerce aussi. Est-ce que l'innovation et le progrès, c'est la même chose? Est-ce que tout progrès est souhaitable, etc., etc. C'est un seuil où il y a plus d'incertitude, disons, que le second seuil. Et du coup, le religieux, évidemment, réapparaît dans ces zones d'incertitude. Et réapparaît souvent de manière dure. Enfin. Et donc, il y a effectivement montée de fondamentalisme, etc., qui sont minoritaires, hein, qui sont minoritaires numériquement, mais qui occupent évidemment beaucoup l'actualité.
Jean-Marc, il n'y a pas cette vision des choses, ce pont, enfin, cette vision par seuil, vous en pensez quoi?
Ouf, des tas de choses.
Vous avez, vous aussi, 3-4 minutes.
D'accord. Alors, on va aller à la fin. La question essentielle que pose la loi de 1905 et la démarche de Briand, qui est posée dans la conclusion de Jean, qui décide? Et est-ce que chacun a la capacité de décider, a la liberté de décider? Et je crois que c'est fondamental. Est-ce parce que il y avait dans la part de certains, y compris les propenseurs à l'époque, la tentation, je dirais, de remplacer un dogme religieux par un dogme, comment dirais-je, positiviste. Il est écrit que ça va aller mieux. Qui décide? Et la question de la laïcité, de la laïcisation, de la laïcité des institutions, de la sécularisation, qui est un processus qui concerne les individus, pose à chaque fois la question de est-ce que c'est l'individu qui est au centre et qui est libre, ou est-ce que c'est quelque chose de supérieur, mais qui est supérieur? Drôle de question, drôle de problème, drôle d'ennui. Voilà, moi, ce que je peux, pour rester dans le laps de temps qui m'est octroyé.
Merci beaucoup. Ben, merci à tous les deux pour cette présentation et cette discussion. Et puis, merci aussi à Dora Memré-Chambly d'avoir été là, puisque vous avez été contributrice à l'ouvrage pour la recherche dans les sources et pour le chapitre sur l'Algérie. Donc, il faut le souligner. Voilà, Jean. Oui, je vais...